Le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Que retenir des élections municipales hier en Turquie? Quel avenir pour le parti du chef de l'État, l'AKP, qui essuie une sévère défaite? Nous ferons le point avec notre correspondante dans le pays.
Nous en parlons avec nos invités ce matin. Le cannabis récréatif devient légal en Allemagne. Reportage à Berlin, dans un club cannabis qui accueille ses premiers adhérents.
Il reste 2 jours aux lycéens et aux étudiants qui se réorientent pour formuler leurs vœux sur Parcoursup. On se penche sur les études en soins infirmiers dans ce journal.
Et dans un quart d'heure, le billet politique de Jean Lémarie. Il reviendra sur l'élection de Jean Tiberi à Paris, validée par le Conseil constitutionnel en 1998. Malgré une fraude électorale évidente, désormais le Conseil ouvre les archives de ses délibérations.
Recep Tayyip Erdogan promet de respecter la décision de la nation. Il a reconnu un tournant pour son camp hier lors des élections municipales. L'opposition a infligé à son parti islamo-conservateur, l'AKP, sa pire débâcle électorale en 20 ans. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
On fait le point avec vous en direct. Vous êtes notre correspondante à Istanbul et vous avez suivi ces élections. Istanbul reste entre les mains de l'opposition et pour le président turc, c'est certainement l'une des informations de ce scrutin les plus difficiles à digérer.
Oui, puisqu'on l'a dit, hein, il avait mis tous ses efforts sur Istanbul. Recep Tayyip Erdogan, humilié de perdre sa ville en 2019, il voulait sa revanche. Dès le soir de sa victoire à la présidentielle en mai dernier, c'était quand même assez étonnant de l'entendre dire à ses militants de continuer le travail, de se lancer dans la campagne pour ses municipales afin de reconquérir Istanbul. Il s'est lui-même impliqué personnellement, il a donc perdu, et largement. C'est un petit raz-de-marée en faveur du maire sortant d'opposition, İmamoğlu, réélu avec 1 million de voix d'écart sur le poulain du président. İmamoğlu, qui en plus a obtenu une majorité des arrondissements et qui aura les coudées franches pour gouverner la ville. Ça, c'est nouveau. Il n'avait jusqu'à présent pas la majorité au conseil municipal. Vous parliez d'informations difficiles à digérer, Margot. Eh bien, on peut signaler, par exemple, que le président Erdogan a pu voir Üsküdar, cet arrondissement ici où il vote à Istanbul, passé entre les mains de l'opposition.
Au-delà d'Istanbul, Marie-Pierre, la défaite est sévère pour le parti du chef de l'État.
Ah oui, hein, Istanbul, mais aussi Ankara, la capitale, dans un fauteuil, Antalya sur les bords de la Méditerranée, Adana dans l'Est. Le CHP, le parti républicain du peuple, a conservé les 4 grandes métropoles qu'il avait conquises en 2019 et on a ajouté de nouvelles. Bursa, par exemple, le grand centre industriel de l'Ouest. Pour faire simple, il y a en Turquie 30 métropoles. L'opposition en dirige désormais 14. Elle domine notamment dans toute la partie ouest égéenne du pays, la plus développée, mais là aussi rafler quelques bastions à l'AKP du président en Anatolie. Ça, c'était plus inattendu.
Et maintenant, Marie-Pierre Véraud, à quoi faut-il s'attendre?
Mais écoutez, vous le disiez, hein, c'est la pire défaite de son histoire pour l'AKP du président Erdogan. C'est le meilleur score depuis plus de 20 ans pour le parti républicain du peuple qui passe devant l'AKP au niveau national. C'est inédit. Alors, İmamoğlu, le maire d'Istanbul, se garde bien pour l'heure d'aller sur ce terrain. Mais plusieurs de ses proches estiment que le parti est fondé à demander des élections anticipées. Dernier point, Margot, les islamistes du nouveau parti de la prospérité font une percée lors de ces élections. Ils sont devenus le 3e parti du pays devant le parti kurde, mais avec un score quand même assez faible.
Marie-Pierre Véraud en direct d'Istanbul pour France Culture. L'armée israélienne a retiré ses chars de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, affirme ce matin le ministère de la Santé du Hamas, qui ajoute avoir découvert à cet endroit des dizaines de corps. L'armée israélienne a lancé il y a 2 semaines une opération militaire contre ce complexe. Elle n'a pas immédiatement confirmé ce retrait. Elle annonce par ailleurs que 600 de ses soldats ont été tués depuis le 7 octobre et le début de la guerre contre le Hamas à Gaza. Les juifs ultra-orthodoxes bénéficient, eux, d'une exemption militaire. Mais dans un arrêt provisoire rendu en fin de semaine dernière, la Cour suprême israélienne a ordonné le gel des allocations mensuelles touchées par les élèves des yeshivot, ces écoles religieuses qui accueillent des jeunes en âge d'aller à l'armée pour étudier la Torah. Colère des partis ultra-orthodoxes qui pourraient briser la coalition de Benjamin Netanyahou. Mais dans un pays en guerre, le deux poids deux mesures est devenu insupportable. Le reportage de Thibault Lefebvre.
Le sketch a été diffusé fin janvier sur la chaîne 12. L'air grave, 2 soldats frappent à une porte. Il s'apprête à annoncer à une mère ou à un père la mort de leur enfant au combat. La porte s'ouvre, longue barbe, veste noire, un homme ultra-orthodoxe pense que l'armée est venue pour l'enrôler. Il se défend et justifie son exemption, mais au bout de quelques secondes, les soldats, confus, se rendent compte de leur erreur. Ils se sont trompés d'adresse. Soulagé, le religieux lance à la volée. Faites attention la prochaine fois et surtout dites à la famille en deuil que nous, les religieux, nous avons prié et nous avons tout fait pour eux. Colère dans la communauté ultra-orthodoxe, rire grinçant chez les laïcs, mais aussi chez des religieux proches des milieux conservateurs pour qui la guerre a tout changé. C'est le cas de Rivka. Son frère a été gravement blessé à Gaza il y a 5 semaines.
La plupart des membres de ma famille sont des rabbins, mais on veut que les ultra-orthodoxes participent à la vie de la communauté. Vous avez vu le nombre de tués et de soldats blessés? Il nous faut plus de soldats.
L'armée israélienne a besoin à très court terme de 7000 soldats supplémentaires. Les ultra-orthodoxes en âge d'être enrôlés sont 10 fois plus nombreux.
L'Équateur connaît une nouvelle vague de violence en ses vacances de Pâques. Malgré l'état d'urgence en vigueur, 3 massacres ont eu lieu en 2 jours. Preuve, s'il en fallait, que les bandes de narcotrafiquants n'ont pas rendu les armes. La correspondance d'Éric Sanson.
Au sud-ouest du pays, Ayampé est un petit village normalement tranquille, apprécié des surfeurs. Samedi, 11 touristes équatoriens, dont 5 enfants, y ont été enlevés par une bande qui, selon la police, les a confondus avec des concurrents d'un gang rival, leur disputant le contrôle du microtrafic de drogue. 5 adultes ont été assassinés par balle, le dernier et les enfants ont été relâchés, la police a arrêté 2 personnes. Dimanche, des tueurs à gages sont arrivés à bord d'une voiture dans un quartier pauvre de Guayaquil, principal centre d'exportation de la drogue en Équateur. Ils ont tiré sur la foule qui assistait à un match de volley. 2 personnes sont mortes sur le coup, 6 autres un peu plus tard. Rajoutez 4 morts, dont un militaire vendredi dans le port de Manta, 3 prisonniers tués mercredi dans une prison de Guayaquil, et les déclarations du gouvernement sur la guerre en cours semblent soudainement bien optimistes. Le président Daniel Noboa d'ailleurs n'a pas tardé à indiquer sur son compte X que la bataille continuait. Le chef de l'État insiste sur la nécessité de voter en faveur des mesures autorisant l'extradition et durcissant les lois anti-drogue lors du référendum du 21 avril prochain. Il devra faire face au rejet par de nombreux Équatoriens de l'augmentation de 12 à 15% de la TVA ce lundi pour financer la guerre contre les gangs. Le narcoterrorisme et ses alliés cherchent à nous faire peur, mais ils échoueront, a précisé Noboa. Alors que le taux d'homicide est passé de 6 à 43 pour 100 000 habitants entre 2018 et 2023, il était en baisse depuis le début de l'année, mais sans prendre en compte les récents massacres.
Le gouvernement allemand l'avait promis, le cannabis récréatif est légal à partir d'aujourd'hui dans le pays, avec quelques règles tout de même. Pas question, par exemple, de fumer n'importe où, surtout pas à proximité des écoles ou des crèches. La loi autorise les consommateurs à cultiver chez eux 3 plants ou à se procurer 50 grammes chaque mois en adhérant à des clubs cannabis. Ces associations n'ouvriront officiellement que dans 3 mois, mais déjà commencent à s'organiser. À Berlin, Sébastien Baer.
L'emplacement est déjà trouvé, une parcelle de 150 mètres carrés en périphérie de Berlin, loin des regards indiscrets. C'est là qu'Oliver Vac Jürgensen fera pousser ses plants de cannabis. Le sexagénaire est le président du club High Ground de Berlin.
Depuis que la loi est passée, je reçois des demandes d'adhésion tous les jours. Il y a tous les profils, de 23 à 82 ans. Des chômeurs, des ingénieurs, des médecins, enseignants, retraités. On proposera le gramme d'herbe entre 3 et 10 euros selon la variété et le mode de production. C'est 2 fois moins cher que sur le marché noir.
120 personnes ont déjà rejoint le club qui pourra accueillir 500 membres au maximum. Parmi les nouveaux adhérents, Bad Bung, un Berlinois de 34 ans, consommateur régulier de cannabis, il militait pour la légalisation.
C'est un soulagement, plus la peine de se cacher. On peut maintenant sortir, fumer un joint, profiter avec des amis. On n'a plus besoin de se prendre la tête. Cela va faire des économies et au moins, je suis sûr de la qualité de ce que je consomme.
Car c'est aussi l'objectif de la nouvelle loi, sécuriser la consommation, explique Stéphane Geyer, le président de l'association des clubs de cannabis.
Souvent, sur le marché noir, le cannabis est contaminé par des diluants et des produits chimiques inconnus. Chaque gramme qui poussera sur le balcon de la maison ou qui sera cultivé dans des clubs de cannabis, c'est un gramme de moins qui sera vendu sur le marché noir. Nous pourrons le réduire d'un tiers dans les 2 ou 3 prochaines années.
400 clubs cannabis ont déjà été créés en Allemagne. Ils devraient être 10 fois plus nombreux d'ici un an.
Voilà pour le cas allemand. Qu'en est-il de la légalisation du cannabis en Europe ? On fait le point avec Julie Pietri.
En Europe, seuls 3 pays ont légalisé le cannabis dit récréatif et c'est assez récent en fait. 2021 pour Malte, 2023 pour le Luxembourg et aujourd'hui donc l'Allemagne avec à chaque fois des restrictions. En France, la ligne est dure, le cannabis c'est cool, la cocaïne c'est chic, voilà la représentation sociale des drogues, a dit récemment Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances devant une commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic. Il a ajouté la réalité c'est que ce sont des poisons destructeurs qui participent à la fragilisation de la société française. Posséder, consommer du cannabis en France, c'est s'exposer à un risque d'amende, voire d'incarcération. Peine maximale, 1 an de prison, 3 750 euros d'amende. En Europe, c'est l'interdiction qui prédomine donc, mais avec des sanctions très diverses officiellement, jusqu'à 8 ans de prison à Chypre. En Espagne, posséder, consommer, cultiver du cannabis est autorisé, à condition que ce soit en privé. Au Portugal, la consommation à petite échelle, c'est possible. Dépénalisation, mais pas légalisation. Donc, sur la question du cannabis médical, maintenant, la plupart des États membres ont dit oui, 21 sur 27. En France, où une expérimentation a été menée, son utilisation n'est pas encore légalisée.
Le cannabis en France, il en est question avec vos invités ce matin, Guillaume Erner.
Absolument, on va revenir sur ce contexte. Vous l'avez évoqué, l'Allemagne qui légalise le cannabis à usage récréatif. On va voir ce que cela laisse augurer pour la France en compagnie d'Ivana Obradovic, qui est directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues, qui sera rejointe par le médecin addictologue Bertrand Lebeau Lebovici. 8h12 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Les élections européennes approchent, ce sera le 9 juin. Alors, la majorité présidentielle accélère sa campagne.
Les troupes macronistes ont prévu de se démultiplier sur le terrain avec un seul objectif en tête, mobiliser le socle électoral du chef de l'État. Et pour cela, cap à l'ouest, Rosalie Lafarge.
Du Havre à Pau, de la ville d'Édouard Philippe à celle de François Bayrou, facile à retenir, plaide un cadre de la campagne persuadé de la nécessité d'insister sur les zones géographiques favorables à Emmanuel Macron en 2017 et 2022, mais surtout en 2019, aux dernières européennes. C'est un scrutin de mobilisation plus que de conviction, martèlent les troupes du président. Il faut avant tout donner envie aux électeurs macronistes d'aller voter. Ça ne sert à rien de perdre trop de force là où on est faible, admet le directeur de campagne. Malgré tout, la majorité affiche l'ambition d'être présente partout en France, avec en parallèle des 2 meetings nationaux encore prévus d'ici le 9 juin, une stratégie plus locale, multiplication des petites réunions publiques, 135 déjà programmées, en présence autant que possible de ministres ou figures du camp présidentiel, et un tract départemental. 650 000 exemplaires attendus en fin de semaine. Toutes les bonnes volontés sont appelées à s'investir dès ce mois d'avril pour ne pas tomber dans une espèce de flottement avant mai, vendu comme le sprint final, le moment où tout va vraiment se jouer. La désignation de Valérie Ayé, son meeting à Lille et ses premiers déplacements n'ont pas fait réellement bouger les intentions de vote en faveur de la liste de la majorité. Et les macronistes, déjà largement distancés par le RN de Jordan Bardella, voient maintenant le risque de se faire rattraper par Raphaël Glucksmann, le candidat PS Place Publique, dont il faut désormais pour le camp du chef de l'État se démarquer. On vote à 90% la même chose au niveau européen. Il devrait être avec nous, lançait à son sujet Valérie Ayé il y a un mois. Pas forcément reconnaître un pilier de Renaissance, l'argument le plus malin.
Plus que 2 jours pour boucler ses vœux sur Parcoursup. Et si l'on souhaite intégrer un institut de formation en soins infirmiers, il faut remplir un questionnaire d'auto-positionnement. Une façon pour le candidat de savoir si cette formation l'intéresse vraiment. En 2022, un rapport sénatorial pointait l'inadaptation de Parcoursup qui a remplacé le concours d'entrée. La même année, 13% des apprentis infirmiers ont interrompu provisoirement ou définitivement leurs études en première année, au lieu de 4% il y a 10 ans. Alors ce questionnaire, c'est un moyen d'aider les jeunes dans leur orientation, mais c'est insuffisant, estime Mallory Dupont, vice-présidente de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières.
C'est un outil complémentaire à l'orientation puisqu'il permet à la phase de formulation des vœux du candidat de l'informer sur l'exercice de la profession, les modes d'exercice infirmier possibles ou encore l'emploi du temps dans l'étudiant infirmier. Voilà, c'est des choses qui nous paraissent quand même très importantes, que ce soit porté à la connaissance des candidats avant qu'ils formulent leurs vœux. Pour l'avoir vécu moi-même entre les représentations que je m'étais faites de la formation et mon premier jour à l'IFSI, il y avait vraiment une grande différence. Et donc c'est pour ça que nous, en tout cas à la FNESI, on souhaite aussi qu'elle soit pas une formation que je découvre sur la plateforme, mais qu'elle soit une formation pour laquelle j'ai développé un projet parce que j'ai rencontré des professionnels infirmiers, parce que j'ai rencontré des étudiants, etc. Et que c'est ce que je souhaite faire.
Mallory Dupont de la FNSEI avec Talita Thierot. L'exécutif planche sur une grande réforme du métier et des études d'infirmiers pour la formation. Les textes seront soumis à la concertation au printemps en vue d'une application à la rentrée 2025, précise le ministère de la Santé. Les MJC, bientôt dans le Pass Culture, ce dispositif pour favoriser l'accès des 15-18 ans à la culture, a annoncé hier soir Rachida Dati. Aujourd'hui, les maisons des jeunes et de la culture ne sont pas éligibles. La ministre qui tente par ailleurs de rassurer le monde du hip-hop sur la proposition de loi visant à professionnaliser l'enseignement de cette danse. On peut encore améliorer le texte, assure-t-elle. Elle a aussi l'intention d'augmenter le nombre de chorégraphes issus du hip-hop à la tête des institutions. Il ne reste aujourd'hui qu'un département en vigilance rouge au cru. Ce matin, l'Indre-et-Loire. 6 autres sont en orange pour la même raison, dont la Vienne. Dans ces deux territoires, plus de 200 évacuations ont eu lieu ces derniers jours et un kayak a été aperçu en difficulté ce week-end en Haute-Vienne. Le temps sera perturbé encore, pluvieux, voire orageux aujourd'hui dans un bon quart nord-ouest. Un peu plus de soleil dans le sud. 13 degrés, pas plus cet après-midi à Lille et Strasbourg, jusqu'à 15 à Lyon et Biarritz.